En mars 1995, le corps de Julie Winningham, 41 ans, est retrouvé près de la route 14 dans l'état de Washington, au nord-ouest des États-Unis. Elle est morte par strangulation.
Il était impressionnant. Il mesurait plus de 2 mètres. Il devait peser dans les 130 kilos. Et ma mère faisait 1,50 m et 45 kilos. C'était une brindille comparée à lui.
Julie Winningham est la 8e victime d'un tueur en série, Keith Jesperson. Le routier de 39 ans cible des femmes innocentes à travers tous les États-Unis depuis déjà 5 ans.
Elles tombaient droit dans la gueule du loup. Elles étaient ses proies. Et il n'avait qu'à se laisser aller à ses pulsions.
Tous les regards sont braqués sur Jesperson lorsqu'il avoue avoir commis 5 meurtres dans une lettre anonyme envoyée à un journal. Il la signe avec un smiley.
J'ai écrit que j'avais tué Tonya Bennett en janvier 1990. Et puis j'ai dessiné un cercle avec 2 yeux et un sourire.
Keith Jesperson, surnommé le tueur au smiley, est considéré comme l'un des pires criminels au monde. En mars 1995, quand Keith Jesperson, un routier de 39 ans, fait ses aveux devant les enquêteurs, les médias ont enfin l'occasion de mettre un visage sur le célèbre tueur au smiley. Durant 5 ans, Jesperson a ôté la vie à au moins 8 femmes dans 5 états différents. Monty Buettner fait partie de l'équipe d'enquêteurs qui a mis fin à l'épopée sanglante du tueur au smiley.
Jesperson ciblait souvent des prostituées, des femmes sans domicile fixe. Il pensait que personne ne signalerait leur disparition, ce qui lui permettait de s'échapper sans être inquiété et de quitter la région au volant de son camion.
Jesperson est divorcé et père de 3 enfants. Du haut de ses 2 mètres 04, il domine ses victimes.
Pour lui, le plus important, c'était d'avoir le contrôle. Il voulait contrôler ses femmes. Il voulait abuser d'elles et il prenait du plaisir en faisant ça. Il essayait donc de trouver des victimes qui cochaient toutes ces cases.
Malgré sa carrure et la violence dont il peut faire preuve, Jesperson se révèle calme et parle posément lors de ses aveux face aux enquêteurs.
Keith, est-ce que vous voulez bien décliner votre identité?
Je m'appelle Keith Hunter Jesperson.
Vous comprenez que cette conversation est enregistrée?
Oui.
Vous nous autorisez à le faire?
Oui.
Chaque fois que je lui parlais, il était super sympa avec moi. Quand je le regardais dans les yeux, je n'aurais jamais pensé que ce type était un tueur en série. Il n'avait pas de mauvaise fréquentation, il ne jurait pas. Personne ne pouvait penser que Keith Jesperson était un criminel. Impossible. À un moment, il m'a dit qu'on devrait faire du porte-à-porte pour apprendre aux gens à ne pas se faire tuer. Il ne voyait pas les choses comme tout le monde. Il était différent. Il aimait que les regards soient braqués sur lui, que les gens se disent que c'était un tueur en série. Quelqu'un qui avait de l'importance et du pouvoir pour oser mener une vie comme ça. Je ne crois pas qu'il ait jamais eu de remords. Au final, il voulait simplement que les gens l'admirent.
L'histoire de ce meurtrier débute près de Vancouver, au Canada. Keith Hunter Jesperson, né le 6 avril 1955 à Chilliwack, en Colombie-Britannique. Il grandit dans une famille nombreuse, à la campagne.
Jesperson avait 2 frères et 2 sœurs. C'était un peu le mouton noir de la famille. Je crois qu'il a essayé d'attirer l'attention de son père dès son plus jeune âge.
Son père était très autoritaire. Il méprisait les femmes. Donc, depuis tout petit, Jesperson a toujours considéré les femmes de façon misogyne. Cette vision dégradante de la femme était normale pour lui.
Ce père qui en impose semble faire ressortir une certaine violence chez le jeune homme.
Jesperson a dit qu'un de ses premiers souvenirs d'enfance, c'était dans une aire de jeu. Il a jeté un caillou du haut d'un toboggan et il a cogné la tête de son frère. En fait, il essayait simplement d'attirer l'attention de son père. Celui-ci valorisait la violence et ce genre de comportement. Je suis persuadée qu'il cherchait à obtenir l'approbation de son père par ce geste.
La vérité, aussi terrible soit-elle, c'était que sa vie n'était pas ordinaire. Dans cette famille, il n'y avait aucune valeur éducative. Il n'y avait pas de sens moral, pas de notion du bien et du mal.
Avant ses 7 ans, Jesperson présente une personnalité qui s'apparente à celle des tueurs en série.
Il aimait tuer et torturer des animaux. Il s'en prenait à des chats, des chiens, des rongeurs et des corbeaux. Ça lui donnait un sentiment de pouvoir, de contrôle, qu'il ne ressentait pas autrement. Mais il s'est aussi rendu compte qu'il aimait avoir le contrôle sur d'autres êtres vivants et qu'il avait leur vie entre ses mains.
La famille traverse la frontière et s'installe aux États-Unis. Jesperson trouve bientôt un emploi qui s'avérera bien utile pour commettre ses nombreux meurtres.
Il est devenu routier pour une entreprise de l'État de Washington. Ça lui a permis d'avoir une grande liberté. Il allait un peu partout. Il dormait dans la cabine de son camion. Sur les aires de repos, il trouvait toujours des jeunes femmes qui savaient que les chauffeurs cherchaient de l'accompagner. C'était l'idéal pour la personnalité de Jesperson.
Il avait énormément de temps pour réfléchir, pour fantasmer, pour imaginer ce qu'il allait faire. C'était une situation assez dangereuse parce qu'il était seul. Personne ne pouvait tenter de le freiner.
Au début des années 90, Keith Jesperson est séparé de sa femme et il passe la plupart de ses journées au volant de son camion sur les routes interminables des États-Unis. Le 22 janvier 1990, à Portland, dans l'Oregon, une jeune femme de 23 ans est retrouvée morte.
C'est la mère de Tonya Bennett qui a signalé sa disparition. Un jeune homme qui s'était arrêté le long de la route a découvert le corps. Il avait été balancé depuis une route assez touristique et avait atterri dans un petit ravin, dans la gorge du Columbia.
Les policiers pensent que l'affaire sera résolue rapidement, car une femme de la région, Laverne Pavlinac, déclare que son compagnon est responsable de la mort de Tonya Bennett.
Laverne Pavlinac était plus âgée que John Sosnowski, et John était alcoolique. Je crois qu'il avait été violent avec Laverne à plusieurs reprises. Elle a sans doute voulu le sortir de sa vie, et du coup, elle s'est dit que si elle arrivait à le faire enfermer pour meurtre, elle n'aurait plus à le supporter.
Dans un premier temps, elle a déclaré que tout était la faute de John. Et par la suite, elle a dit qu'elle était aussi impliquée dans cette histoire. J'imagine que ça lui plaisait d'être au centre de l'attention et elle voulait jouer un rôle plus important.
La version de Laverne est un tissu de mensonges. La police ne le sait pas encore, mais Tonya a été tuée par un routier de 34 ans, Keith Jesperson.
Il a rencontré Tonya dans un bar, à une table de billard. C'était dans le Multnomah County, dans l'état de l'Oregon. Ils ont décidé d'aller manger un morceau dans un restaurant à côté. En quittant le bar, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas assez d'argent sur lui pour l'inviter à dîner. Il lui a proposé d'aller chez lui pour récupérer de l'argent. Il a eu une relation sexuelle avec Tonya, mais elle lui a fait une remarque qu'il n'a pas appréciée et il l'a tuée. Il l'a étranglée à main nue. Il était costaud et Tonya était plutôt petite. Alors, il n'a eu aucun mal à l'assassiner.
Ça ne l'a pas ému plus que ça. Il l'a laissée chez lui et pour couvrir ses arrières, il est retourné au bar. Quand il est rentré chez lui, il a décidé qu'il devait se débarrasser du corps. Il aurait de nombreuses occasions de le faire. Il fallait simplement le charger dans le camion et il pourrait le balancer n'importe où.
Tonya Bennett est la première victime de Jesperson. Et même si deux autres personnes sont jugées pour le meurtre de la jeune femme de 23 ans, le routier ressent le besoin de faire savoir à tout le monde que c'est lui le tueur.
Pendant le procès, il s'est arrêté sur une aire de repos et il a laissé un message sur un mur. Je l'ai frappé, je l'ai violé, je l'ai tué et ça m'a plu. Vous pensez que je suis fou, mais j'ai adoré ça. Deux innocents étaient jugés à sa place et il a signé en dessinant un smiley.
Ses aveux étaient assez irréfutables, mais il n'apportait aucune nouvelle information. C'était seulement des choses que n'importe qui avait pu entendre et écrire sur un mur. Selon moi, Jesperson ressentait un désir de reconnaissance. Il voulait qu'on sache que c'était lui qui avait commis ce meurtre.
Les avocats de Laverne Pavlinac et John Sosnowski sont mis au courant que le routier a affirmé dans un message avoir commis le meurtre. Mais les jurés n'entendent pas parler des révélations du tueur au smiley.
Les avocats de Laverne et John ont tenté d'ajouter coûte que coûte ce témoignage dans le dossier, mais le juge les en a empêchés. C'était des rumeurs, n'importe qui avait pu écrire ça. Ce n'était pas convaincant, il n'y avait donc aucune preuve scientifique. Ils ne pouvaient pas l'autoriser. Les deux accusés ont donc été reconnus coupables du meurtre. Et Keith Jesperson était libre de tuer à nouveau. La police ne lui avait pas mis la main dessus. Alors pourquoi s'arrêter là?
Deux innocents sont condamnés à la prison à perpétuité pour le meurtre de Tonya Bennett. Keith Jesperson, lui, est toujours en liberté. En 1992, 2 ans après avoir commis son premier meurtre, il frappe à nouveau. Cette fois, en Californie.
Claudia, la deuxième victime de Jesperson, est restée en vie dans son camion pendant 4 jours. Il a pris du plaisir à la torturer, à voir la peur sur son visage. Elle devait sûrement l'implorer de l'épargner. Ça montre bien que Jesperson prenait un malin plaisir avec ses victimes. Il aimait ce sentiment de pouvoir, de contrôle total et de domination qu'il avait quand une personne se trouvait totalement à sa merci.
Et finalement, au bout de quelques jours, il a fini par s'ennuyer et il l'a tué en la tabassant. Et puis il l'a balancé de son camion. Comment est-ce que la police pouvait identifier le corps d'une jeune femme à des kilomètres de là où elle avait été vue pour la dernière fois? On était au milieu des années 90. La police n'avait pas les bases de données actuelles pour mener des recherches poussées. Juste un corps. Encore une fois, cela montrait la capacité de Jesperson à s'en sortir, à faire ce dont il avait envie. C'était une drogue très puissante et addictive pour un individu qui avait déjà un esprit tordu et aucun sens moral. C'est vraiment une drogue très puissante.
Entre 1992, date de son deuxième meurtre, et avril 1994, Jesperson tue 3 autres femmes. Mais l'homme de 39 ans commence à être frustré. Il ne s'estime pas reconnu à sa juste valeur pour sa folie meurtrière. Il veut rétablir la vérité et il envoie des lettres à un tribunal de l'Oregon et à un journal de la région. Il répète une nouvelle fois que c'est bien lui qui a tué Tonya Bennett en janvier 1990.
Il adorait que les médias parlent de lui et il était prêt à tout pour attirer leur attention. Et le jour où les projecteurs ont été braqués sur quelqu'un d'autre, ça ne lui a pas plu. Quand c'est arrivé pour la première fois, Jesperson a décidé de sortir de l'ombre. Il a contacté un journal et a avoué le meurtre de Tonya Bennett. Par contre, il n'a pas révélé qui il était. Il signait toutes ses lettres avec un smiley et un journal l'a surnommé le tueur au smiley.
À ce moment-là, il était vraiment très frustré. Il écrivait sur les murs des aires de repos, il a écrit à un tribunal, et pourtant, il n'avait toujours pas la reconnaissance qu'il méritait, selon lui. Notamment pour cette histoire de smiley, sa marque de fabrique. Il devait penser que c'était une super idée, mais personne n'en parlait. Donc à ce moment-là, il était très en colère. Il répétait sans arrêt qu'il avait fait ça, qu'il en était fier. Il avait besoin de reconnaissance.
Les lettres racontent dans le détail les 5 meurtres que Jesperson a commis, ce qui permet aux autorités de relier ces affaires isolées. Mais le routier continue à semer la mort. En septembre 1994, il fait une sixième victime, dont on ne connaît que le prénom, Suzanne. Et en janvier 1995, il affirme en avoir fait une septième, son meurtre le plus cruel jusque-là.
Le meurtre d'Angela Subrise continue encore à me hanter. Parce que ça ne commence pas sur une aire de repos, comme la plupart des autres meurtres. Cette fois, il a proposé à Angela de la déposer. Elle avait 21 ans. Elle voulait aller voir son père. Mais elle l'a appelé en chemin et il lui a dit de ne pas venir. Alors, elle a décidé d'aller voir son petit ami dans l'Indiana.
D'après Jesperson, elle l'a énervée parce qu'elle lui disait de rouler plus vite. Elle n'arrêtait pas de lui faire des remarques. Elle se plaignait. En fait, il essayait de rejeter la faute sur sa victime. Il s'est servi des stéréotypes relatifs aux femmes. Elles sont pénibles, elles font des réflexions. Dans le passé, ce genre d'argument a souvent servi à justifier des meurtres, notamment lors de crimes passionnels. Et il se reconnaît là-dedans.
Après avoir passé une semaine avec elle sur la route, Jesperson tue Angela. Mais il est loin d'en avoir fini avec elle.
À ce moment-là, il a totalement perdu le contrôle. Mais si le meurtre d'Angela est aussi effroyable, c'est parce qu'il a décidé de ne pas laisser de traces. Alors il a attaché le corps de cette pauvre jeune fille sous son camion et il a repris la route. Son objectif, c'était qu'on ne puisse plus identifier son visage et ses empreintes digitales. Il se doutait qu'avec cette victime, les enquêteurs pourraient remonter jusqu'à lui. Une ou deux personnes savaient peut-être qu'il lui avait proposé de l'emmener et il voulait s'assurer que personne ne pourrait l'identifier. Ce meurtre fait froid dans le dos. Quand on entend cette histoire, on se dit que personne ne mérite de vivre un tel calvaire. Et pourtant, Jesperson lui a infligé ça sans le moindre remords. Ça semble assez évident.
Jesperson tue de plus en plus fréquemment. Et en mars 1995, seulement deux mois après l'assassinat d'Angela Subrise, un corps est retrouvé dans l'état de Washington, près de la route 14.
Je suis au commissariat de Washougal. J'aimerais parler à un policier. Je crois que j'ai découvert un corps près de la route.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Je me suis arrêté sur le bord de la route pour uriner et j'ai remarqué quelque chose. On dirait une femme. Je vois une main avec du vernis à ongles.
Je m'en souviens encore. C'était mon jour de repos, le 11 mars 1995. J'ai reçu un coup de fil. Apparemment, un corps avait été retrouvé dans notre juridiction, le Skamania County. Les agents ont répondu à l'appel et ils avaient besoin de renforts.
J'ai avancé au milieu de la végétation et j'ai regardé en bas. J'ai cru que c'était un mannequin et puis j'ai vu le vernis sur les ongles. J'ai encore avancé, mais j'ai eu la nausée.
La seule chose qu'il y a dans cette zone, entre la route et le fleuve, c'est une voie ferrée. Le corps se trouvait en contrebas, près de la berge, à une petite dizaine de mètres de la route.
Tout porte à croire que le tueur au smiley a fait une nouvelle victime.
Quand on se penche sur les lieux où Jesperson abandonne les corps de ses victimes, on retrouve des poubelles, des détritus, des objets dont les gens se sont débarrassés, dont ils ne voulaient plus. C'est exactement comme ça que Jesperson voyait ses victimes. Il s'était amusé, il s'était servi d'elles et après, il s'en débarrassait.
D'après les premières constatations, le corps n'était pas là depuis très longtemps, 24 ou 36 heures. Elle était étendue sur le côté droit, face contre terre. Elle présentait des signes de strangulation et une lividité cadavérique. En effet, sa tête se situait plus bas que le reste de son corps. Quand le cœur s'arrête, le sang se concentre au niveau du point le plus bas. Dans ce cas précis, c'était la poitrine, le cou et le visage. Une des marques de fabrique de Jesperson, qu'on a retrouvée sur le corps de toutes ses victimes, c'était les coups qu'il leur portait. Il les frappait au niveau du visage et du cou. Ça finissait par les tuer. C'était un cogneur. Il les frappait à mort.
Avant toute chose, les enquêteurs cherchent à identifier la victime.
Il n'y avait pas de vêtements, pas de portefeuille, aucun moyen de l'identifier. Dans ce genre d'affaires, le médecin légiste relève toujours les empreintes de la victime. Comme ça, on peut les rentrer dans notre base de données. Et par chance, on a découvert que la victime était Julie Winningham, car ses empreintes étaient répertoriées dans le système.
Julie Winningham, 41 ans, est la dernière victime à succomber entre les mains du tueur au smiley.
Jesperson était un homme qui se croyait dans son bon droit de traiter les femmes de cette façon. Il les faisait monter dans son camion et il pensait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait d'elles. Il savait bien que ce qu'il faisait était mal, mais ça ne l'arrêtait pas, parce qu'il avait le sentiment d'avoir une espèce de droit divin pour se comporter ainsi.
Elles tombaient droit dans la gueule du loup. Elles étaient ses proies, et il n'avait qu'à se laisser aller à ses pulsions.
Mais le monde de Keith Jesperson est bientôt sur le point de s'effondrer. Le tueur en série de 39 ans fait une erreur qui va conduire la police jusqu'à lui. Julie Winningham est la 8e victime de Jesperson, mais aussi sa dernière. Don Finlay, le fils de Julie, a 24 ans à l'époque des faits.
Ma mère était joyeuse, libre. Elle était attentionnée et aimante. Elle aimait voyager, partir à l'aventure et ne pas avoir d'attache. Je ne comprenais pas trop ça quand j'étais jeune. Mais en grandissant, j'ai compris pourquoi elle avait choisi de vivre de cette façon.
Julie et Don n'ont pas une relation mère-fils comme les autres. Don travaille en Californie, tandis que Julie voyage à travers le nord-ouest des États-Unis.
Une fois, je lui ai rendu visite en 1991. C'est la dernière fois que je l'ai vue de son vivant. On s'est baladé, on a parlé, on n'a pas vu le temps passer. Et en 1995, ma mère m'a appelé le 12 février, le jour de son anniversaire. Le mien, c'était le 20 février. Elle m'a dit qu'elle était dans l'Idaho avec un ami et qu'elle comptait aller dans l'État de Washington.
En mars 1995, Julie passe beaucoup de temps avec des amis dans la région de Portland, dans l'Oregon, non loin du fleuve Columbia.
Elle a commencé à traîner sur des aires de repos. Elle fréquentait les restaurants routiers, notamment celui de Troutdale, où il y avait une piste de danse et qui organisait des soirées. Beaucoup de gens y allaient, pas seulement des routiers. Il y avait aussi un bar dans lequel elle allait avec ses amis. Elle faisait partie d'un petit cercle d'habitués.
Après la découverte du corps de Julie près du fleuve, dans l'État de Washington, son fils apprend la terrible nouvelle.
J'étais au travail et j'ai reçu un coup de téléphone de ma tante. Elle m'a dit que ma mère avait été retrouvée morte au bord d'une route. Elle avait été violée et tuée. J'ai pété les plombs. J'ai tapé dans les barrières, j'ai déchiré le rouleau d'essuie-tout. Je suis sorti et je me suis effondré au milieu de la rue. Personne, aucun ami et aucun proche ne savait quoi faire.
Les enquêteurs interrogent les amis de Julie et ils sont vite sur une piste. Elle fréquentait un homme, un routier.
On a parlé avec les amis de Julie et on était très intéressés par ce routier avec qui elle sortait. Malheureusement, ses amis ne savaient pas grand-chose sur lui. Ils avaient remarqué qu'il conduisait un camion bleu, un semi-remorque dans lequel il dormait. Mais ils ne se rappelaient pas de son nom. Certains disaient que c'était Keith, d'autres croyaient que c'était Chris. Ils n'étaient pas sûrs.
Au moment où la piste semble se refroidir, les enquêteurs font une découverte capitale.
Par chance, un des amis de Julie venait de lui acheter sa voiture. Et Keith était présent lors de cette transaction. C'était même lui qui avait signé l'acte de vente en tant que témoin. L'ami nous a remis cet acte et il y avait écrit le nom de Keith Hunter Jesperson. Ça nous a mis sur la piste de celui qu'on devait chercher.
Pour la première fois depuis qu'il a commencé à tuer, les enquêteurs entendent parler de Keith Jesperson. L'homme de 39 ans a fait une erreur qui ne lui ressemble pas.
Il y avait toute une série de petits indices qui conduisaient directement jusqu'à Keith Jesperson. Il a fait l'erreur de tuer une personne qui avait un passé et un avenir. Et elle avait de nombreux amis pour le prouver. C'était un très mauvais calcul. Mais le tueur en série a fait une telle erreur parce qu'il était désormais accro au meurtre. Il était allé trop loin parce qu'il ne pouvait pas s'en empêcher.
Pour moi, ça illustre l'arrogance qu'il avait acquise au fil de ses meurtres. Il se croyait intouchable. Il pensait ne jamais se faire prendre.
Les enquêteurs retrouvent Jesperson par le biais de son employeur. Il se trouve à plus de 1600 km de l'État de Washington.
Keith Jesperson avait pour indication de se rendre à Las Cruces, au Nouveau-Mexique, une fois qu'il aurait livré sa cargaison à Hurley. Il était censé récupérer une cargaison de métal, mais en fait, c'est nous qui avions mis en place ce subterfuge pour qu'il vienne jusqu'à nous. Il pensait que c'était une livraison comme les autres, alors qu'on attendait de pied ferme.
Monty Buettner se souvient de sa première rencontre avec l'imposant tueur.
Keith Jesperson était très grand, mais il n'élevait jamais la voix, et je crois que c'était un moyen pour lui de mettre les gens à l'aise. Ma première impression, à sa façon de parler, très douce, malgré le fait qu'il en imposait, j'imaginais très bien comment il pouvait amadouer une victime, lui faire croire qu'elle était en sécurité avec lui, jusqu'à ce qu'il change du tout au tout. Ça a été ma première impression. Oui, cet homme pouvait s'en prendre à des femmes.
Jesperson déclare que Julie Willingham était encore en vie quand il l'a vue pour la dernière fois. Sans preuve matérielle ni scientifique, les enquêteurs ne peuvent pas l'arrêter. Ils retournent dans l'État de Washington pour continuer leur enquête sur la mort de Julie Willingham.
La dernière fois que j'ai vu ma mère, c'était dans une salle blanche, sur une table d'autopsie, un drap blanc jusqu'au cou. Elle avait des hématomes sur tout le visage, sur les joues. Voilà, c'est la dernière fois que j'ai vu ma mère.
Les enquêteurs ont à peine posé le pied dans l'État de Washington que Jesperson fait volte-face.
Peut-être qu'à ce moment-là, il s'est rendu compte que son petit jeu était terminé et qu'il ne pouvait plus rien faire. Il a tout avoué à son patron. Il lui a dit qu'il allait se rendre à la police. Et puis il a laissé un message sur le répondeur d'un des enquêteurs qui était venu l'interroger.
Je suis Keith Jesperson. J'aimerais vous parler. Je serai à Phoenix demain matin. Vous aviez raison. Je me bats contre moi-même depuis 2 jours. J'ai essayé de me suicider 2 fois, mais ça n'a pas marché. Il n'y a pas assez de cachetons dans ce pays. On se parle demain matin. Au revoir.
Le 23 mars, à 22h38, pour enregistrer le message, tapez 1.
Allô, c'est qui ? Je suis dans l'Arizona. Appelez-moi quand vous serez là. Je veux me rendre. On se parle tout à l'heure. Au revoir.
L'enquêteur Rick Buechner parle avec Jesperson au téléphone quand le tueur arrive sur une aire de repos dans l'Arizona.
Ok, Keith, dites-moi où est-ce que vous êtes.
Là, je suis sur l'aire de la sortie 378, sur l'Interstate 10, dans l'Arizona.
D'accord, allez-y, dites-moi ce qui s'est passé.
On a couché ensemble 1 fois. Je voulais recommencer, mais elle a dit que ce serait un viol et que si je la violais, j'avais pas besoin de ça. Elle a commencé à me hurler dessus et j'ai pété un plomb. J'ai pas pu m'en empêcher.
Julie était en colère au sujet de la voiture qu'elle venait de vendre, parce que Keith Jesperson avait signé l'acte de vente en tant que témoin. Elle voulait récupérer la voiture et elle en voulait à Keith. parce qu'elle ne pouvait plus le faire à cause de ce document. D'après Keith, ils s'étaient disputés pour cette raison.
Vous avez fait quoi ? Quoi ? Vous avez fait quoi ?
Je l'ai attrapée par la gorge et je l'ai mise dans la couverture. Je voulais qu'elle arrête de me hurler dessus. Et ça a marché.
Ok.
Et puis, j'ai cru qu'elle respirait encore. Enfin, je sais pas trop.
Il l'a attrapée au niveau de la gorge et l'a maintenue comme ça. C'est ce qu'il a déclaré au téléphone. Il a dit que ça avait duré 5 minutes, mais par la suite, il pensait que ça avait plutôt duré 10 minutes. Il l'a étranglée jusqu'à ce qu'elle s'arrête de bouger.
J'ai remonté la route 14 avec mon camion. Je savais que je ne devais pas faire ça, mais il fallait que je me débarrasse du corps. Alors je me suis arrêté à un endroit isolé et je l'ai balancé.
On a contacté le commissariat le plus proche et des agents de police ont été envoyés sur l'aire de repos depuis laquelle il avait appelé Rick Buckner.
Keith Jesperson est placé en garde à vue, mais les policiers viennent à peine de se rendre compte qu'ils ont arrêté le célèbre tueur au smiley. Dans une lettre envoyée à son frère juste avant son arrestation, voici comment Jesperson évoque ses actes. « Désolé d'avoir mal tourné. Je tue depuis 5 ans et j'ai assassiné 8 personnes. J'en ai agressé d'autres. Je crois que je n'ai rien appris. »
Au moment où on a découvert ces lettres, l'enquête concernant Julie Winningham était quasiment bouclée. Donc le jour où la lettre qu'il avait adressée à son frère a été publiée dans les médias, on se doutait déjà que Keith Jesperson avait pu ôter la vie à de nombreuses victimes durant son parcours meurtrier.
Le moment est venu d'interroger Keith Jesperson pour savoir exactement ce que le tueur au smiley a à dire pour sa défense.
Je n'avais pas l'impression de pouvoir me contrôler. C'était comme si j'étais pas vraiment moi-même et j'arrivais pas à croire ce que je faisais.
Grâce aux lettres et aux interrogatoires de Jesperson, les enquêteurs apprennent que l'homme a tué 8 femmes à travers les États-Unis. Du nord-ouest, dans l'état de Washington, au sud-est, en Floride. Maintenant, les policiers sont déterminés à mettre des noms et des visages sur les femmes inconnues que Jesperson déclare avoir tuées.
Au fur et à mesure, la police a réussi à se faire une idée des victimes et de là où elles se trouvaient. Dans un premier temps, ils ont identifié certains corps qui se trouvaient dans 5 états. Ce n'était pas simple.
Dans une lettre envoyée à un journal un an avant son arrestation, Jesperson déclare qu'il a tué une femme avant de se débarrasser de son corps à Salem, dans l'Oregon. Mark McClair, le procureur de Marion County, s'intéresse à l'affaire quand il apprend que le tueur au smiley a été arrêté.
Il avait des mains énormes. Quand je l'ai rencontré et interrogé pour la première fois, dans la prison de Clark County, dans l'état de Washington, il devait se baisser pour passer les portes. Il était extrêmement grand. Il était impressionnant. Mais il ne ressemblait pas du tout à un monstre. On aurait plutôt dit un géant sympathique, avec qui on avait envie de discuter. Enfin, jusqu'à ce qu'il sorte de ses gonds, j'imagine.
Mark McClure demande qu'un prélèvement de sang soit fait sur Jesperson. Celui-ci révèle que son ADN correspond à celui du sperme retrouvé sur Laurie Pentland, la quatrième victime du tueur, en novembre 1992.
Laurie Pentland était morte par strangulation. On se demandait s'il avait eu l'intention de lui donner la mort ou pas, s'il savait qu'elle serait sa prochaine victime. Elle avait eu une relation sexuelle avec lui. Elle lui avait fait une fellation. Mais les choses s'étaient envenimées, elle l'avait mordu et il l'avait tué. C'était notre théorie.
Le tueur use donc de son modus operandi habituel pour ôter la vie à Laurie Pentland.
Jesperson a assassiné Laurie en l'étranglant à plusieurs reprises. Il l'asphyxiait jusqu'à ce qu'elle soit pratiquement inconsciente, et puis il s'arrêtait pour qu'elle reprenne ses esprits. Il a recommencé plusieurs fois. Pour moi, c'est un des aspects qu'il appréciait le plus. Il aimait avoir la vie de sa victime entre les mains. Il voulait faire durer le plaisir et en profiter le plus longtemps possible. Ça devait être effroyable pour ses victimes.
Quand une personne est étranglée, souvent les os du cou sont brisés. Et Jesperson avait des mains énormes. Il leur a écrasé le cou. Voilà comment ça s'est passé.
Jesperson est inculpé du meurtre de Laurie Pentland. Après avoir révélé aux enquêteurs où trouver le corps d'Angela Sobrise, la femme qu'il a traînée sous son camion en janvier 1995, l'homme de 40 ans est également inculpé de ce meurtre, son troisième. Mais Jesperson ne s'arrête pas là et il avoue une nouvelle fois être responsable du meurtre de Tonya Bennett en janvier 1990, alors que deux personnes ont déjà été condamnées dans cette affaire.
Est-ce qu'à un moment, vous avez rencontré une femme que vous avez tuée ?
Oui. J'ai rencontré une fille. Je ne me souviens plus si c'était le 20 ou le 21. C'était il y a très longtemps.
De quel mois ?
Janvier 90.
Vous vous souvenez de son nom ?
Oui. Elle s'appelait Tonya Bennett.
Face aux enquêteurs, Jesperson déclare que Tonya est venue chez lui après leur rencontre dans un bar et un dîner au restaurant. Ils ont une relation sexuelle sur un matelas à même le sol.
Elle m'a fait une remarque quand j'étais au-dessus d'elle. Un truc du genre « J'y arrive pas, alors dépêche-toi de finir. » Et ça m'a vachement énervé. Alors je l'ai calmé avec mon poing droit.
Comment ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
J'ai perdu mon calme. Je l'ai frappé au visage et je ne me suis pas arrêté jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. J'ai mis mon poing droit sur sa gorge et j'ai appuyé jusqu'à ce qu'elle meure. Enfin, j'ai cru qu'elle était morte. Et puis j'ai entendu des gargouillis. Elle a dû mourir quand j'ai appuyé sur sa gorge.
Jesperson décrit ce meurtre brutal, son premier, le plus calmement du monde. Les enquêteurs de l'État de Washington contactent leurs collègues qui sont dans l'État voisin.
J'ai reçu un coup de fil de Rick Buckner, qui travaillait au Clark County. Il m'a dit qu'ils avaient arrêté un homme pour le meurtre de sa petite amie. Et il racontait aux policiers et aux autres détenus qu'il avait tué une femme, Tonya Bennett.
Bien sûr, personne ne l'a cru parce que deux personnes se trouvaient déjà en prison pour ce meurtre. Et l'une d'elles avait tout avoué. Mais Jesperson a demandé si on avait retrouvé le sac et la pièce d'identité de Tonya Bennett. Et effectivement, on n'avait rien trouvé sur la scène de crime. Il a dit qu'il les avait balancés à un autre endroit et il était prêt à nous dire où.
Jesperson confie qu'il s'est débarrassé du sac de Tonya Bennett dans une forêt, le lendemain matin du meurtre.
J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et il n'y avait personne. J'ai balancé le sac et tout ce qu'il y avait dedans sur le bas-côté. J'ai dû jeter le sac à une dizaine de mètres, je dirais.
Si je vous faisais sortir d'ici, vous seriez prêt à me montrer l'endroit exact ?
Bien sûr.
On l'a donc emmené à l'endroit où il était censé avoir balancé le sac, au bord de la route. Il avait abandonné le corps de sa victime et il avait juste gardé son sac. Il avait balancé le contenu du sac dans cette zone. Mais c'était assez vaste et la végétation était très dense.
Malgré les fouilles minutieuses menées par la police et les scouts du coin, aucun élément n'est retrouvé. Mais les enquêteurs ne s'avouent pas encore vaincus.
Mon coéquipier a dit qu'on devrait peut-être se laisser une autre chance. Donc, le samedi suivant, on a envoyé une équipe de scouts avec un agent de police pour les superviser. Et ils ont retrouvé la pièce d'identité de Tonya Bennett. Elle était encore en parfait état. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait savoir qu'on la retrouverait à cet endroit précis. même si on a dû s'y reprendre à deux fois. C'était celui qui l'avait balancé là. Ça a été un tournant. C'est à ce moment-là qu'on a su qu'on pouvait inculper Jesperson de ce meurtre. Parce qu'on disposait désormais de suffisamment de preuves qu'il impliquait directement. Il fallait plus que des aveux. Et la pièce d'identité de la victime, c'était ce qui nous manquait.
Quelque chose à ajouter? Quelque chose qu'on vous a pas demandé?
Je suis désolé. Ça fait longtemps que je suis désolé.
Le 2 novembre 1995, trois semaines après la découverte de la pièce d'identité, Keith Jesperson décide de ne pas contester les faits concernant le meurtre de Tonya Bennett devant le juge. Il est condamné à la perpétuité. Moins d'un mois plus tard, Laverne Pavlinak et John Sosnowski sont libérés de prison.
Si Jesperson avait choisi de se taire, il n'aurait sûrement pas été condamné. Il n'y avait aucun élément sur la scène de crime qui permettait de remonter jusqu'à lui. Donc, s'il n'avait pas décidé de nous parler, il y a de fortes chances que les deux personnes condamnées pour le meurtre seraient encore en prison.
Le 15 novembre 1995, Jesperson est une nouvelle fois condamné à la perpétuité pour le meurtre de Lori Pentland. Et en décembre, il est à nouveau jugé, cette fois pour le meurtre de Julie Winningham, la femme dont la mort cruelle aura conduit à la chute du tueur au smiley.
J'étais au premier rang lors du procès. Au tribunal, il a dit qu'il avait violé ma mère, qu'il avait attaché ma mère, qu'il avait enfoncé son poing contre sa gorge pour s'assurer qu'elle était morte. Il l'a gardée dans la cabine de son camion entre 12 et 24 heures. Et puis, il a balancé son corps dans un ravin, comme un vulgaire déchet. Et il a fallu que je l'écoute raconter ça devant le tribunal. C'est un monstre.
Jesperson est reconnu coupable et écope d'une troisième peine de prison à perpétuité.
Il a été condamné trois fois à la prison à perpétuité. Deux fois dans l'Oregon et une fois dans l'État de Washington. Donc en réalité, ça fait trois peines à la suite. Il mourra derrière les barreaux.
Il a pris la vie d'une personne aimante, affectueuse, d'une femme libre, d'une mère, d'une tante, d'une sœur, d'une fille. Et il l'a emportée loin de nous, pour son propre plaisir. Le vide qu'il a laissé, personne ne peut se l'imaginer. Je devais être présent, parce que c'était ma mère. Je n'avais pas d'autre choix.
En 1998, Jesperson est déclaré coupable du meurtre d'Angela Sobries. Et en 2007 et 2010, il est condamné pour deux meurtres commis en Californie, en 1992 et 1993. Au total, le meurtrier a été condamné à 6 reprises. Il est toujours emprisonné dans l'Oregon.
J'ai arrêté pas mal de criminels pour toutes sortes de délits et de meurtres. Mais c'est la seule fois où le coupable que j'ai arrêté semblait extrêmement fier de ce qu'il avait fait.
Keith Jesperson est quelqu'un de profondément mauvais. Il cherchait les faiblesses chez les autres, en particulier les femmes, et il les exploitait pour arriver à ses fins. Quand il avait fini, il les tuait et se débarrassait de leur corps. Il est diabolique.
Jesperson est un homme qui en impose. Il s'est servi de ses énormes mains pour frapper à mort ou étrangler ses victimes. Pendant 5 ans, il a réussi à échapper à la justice. Mais ses mains, qui ont semé la mort, ont également servi à écrire des lettres qui auront conduit les enquêteurs jusqu'à lui et à faire définitivement disparaître le sourire du tueur au smiley, un des pires criminels au monde.